Bonjour à chacun, à chacune. Et c'est vrai qu'un jour comme aujourd'hui, alors c'est la chrétienté, on va dire, tous ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ, se disent chrétiens, célèbrent Pâques. Alors, il y aurait tant de choses à partager. Oui, il en vient plein sur mon cœur à tel point que parfois il faut que je trie. Autour de cet événement fondateur de la foi chrétienne. Pendant des années, j'avais un peu de mal, après la conversion, à célébrer la Pâque, parce que je disais tout ça, c'est des traditions, et en fait, Jésus, on sait maintenant qu'il est ressuscité, et c'est tous les jours. C'est tous les jours la Pâque pour les chrétiens nés de nouveau. Et puis, ben, des fois, le Seigneur nous fait évoluer. Hein, et je me dis, dans ce temps où il y a une volonté manifeste dans ce monde et ce monde occidental particulièrement, d'éradiquer tout ce qui pourrait rappeler l'existence de Dieu et la seigneurie de Jésus-Christ, eh bien, je dirais quelque part, ça me motive pour dire, eh bien, saisissons ce qui est peut-être une tradition humaine pour revenir à ce que nous dit la parole de Dieu. Évidemment, et ça a été dit à plusieurs reprises ce matin, on a envie la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus-Christ est mort, certes, mais les liens de la mort n'ont pu le retenir. Il est ressuscité. Alléluia. Alors, ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est ce qui fait qu'il y a ce miracle que lorsque la vie est venue en nous, la vie d'en haut est venue en nous, par le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous, jaillit de nos cœurs alors une prière, à voix haute, une prière libre, qui est folie pour le monde, mais qui est sagesse de Dieu, nous nous adressons tout simplement à quelqu'un qui est vivant. Ça, c'est extraordinaire. Et évidemment, ce serait simple et enthousiasmant, et je vais m'arrêter là, parce que pour moi, de parler de ça. Mais ce matin, je voudrais que nous revenions dans le livre de l'Exode sur la signification de ce terme « Pâques ». Le terme Pâques, Pécha en hébreu, veut dire littéralement passer outre. Alors nous allons ce matin faire ceci, nous allons lire dans le livre d'Exode un certain nombre de passages, notamment sur l'institution de la Pâque, et avant ça, sur le regard de Dieu sur son peuple qui était opprimé et en esclavage. Jean-François a lu ce passage dans Luc 4, où Jésus cite lui-même Ésaïe, 700 ans auparavant, et annonce son ministère. Il est venu pour délivrer les captifs, restaurer des cœurs brisés. Et là, nous allons voir dans Exode un texte tout à fait prophétique et historique de Dieu sur son peuple hébreu retenu en esclavage en Égypte. Nous allons lire ces textes. Je vous parlerai un peu de l'Égypte, ce qu'elle représente. Et puis, nous regarderons l'institution de la Pâque juive, cette histoire de l'agneau immolé avec le sang sur les portes et ce qui s'est passé. Et nous verrons le sens profond de Pâque, qui veut dire « passer outre ». Le titre de mon message, c'est « Où est le sujet de se glorifier ?» Pour un certain nombre, vous savez, ce texte que nous lirons également dans Romains 3, où Paul parle de la justification par la foi, tout simplement. Et à un moment, il termine, il dit, mais où est le sujet de se glorifier? Parce que finalement, le salut, c'est Dieu qui en a fixé les termes, et c'est lui qui a tout accompli. Et nous verrons que ce qu'il nous demande pour être au bénéfice de ce salut, c'est vraiment d'une grande simplicité et d'une grande humilité. Il n'y a aucun sujet de se glorifier, je terminerai par là, si ce n'est en lui, en Jésus-Christ. Alors je vous invite, que je ne me perde pas avant d'avoir commencé, je vous invite à lire donc dans le livre de l'Exode, nous allons lire d'abord au chapitre 3, à partir des versets 7 à 12. Il y aurait beaucoup de choses à lire, mais je vais essayer de limiter les passages. Donc nous nous situons, livre de l'Exode, 1500 ans avant Jésus-Christ, le peuple hébreu qui s'est installé en Égypte, installé par Dieu et dans de belles conditions, dans des plaines fertiles, un peuple qui a fait la gloire de l'Égypte et la richesse économique aussi par ailleurs, et puis qui s'est développé considérablement, au point qu'à un moment, Pharaon a dit « ça commence à être dangereux cette affaire-là », et petit à petit, il a réduit le peuple hébreu en esclavage. Mais Dieu a l'œil sur son peuple. Dieu a toujours l'œil sur ceux qui se confient en lui, quelles que soient les situations. Il voit tout, Dieu des cieux. Alors nous allons lire, il a choisi donc Moïse, qui a fait lui-même des tentatives pour délivrer son peuple, mais sans l'accord de Dieu et sans l'onction de Dieu. Nous allons donc lire, là c'est le passage après le buisson ardent, Exode 3, verset 7. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Plusieurs ont besoin d'entendre ces paroles ce matin. « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Dieu connaît nos douleurs, nos souffrances. Il les a toutes vécues. « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent aujourd'hui les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, Moïse, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Retenez ce verset. « Quand tu auras fait sortir le pays d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne, j'y reviendrai. » Donc Moïse va exécuter ce que Dieu lui demande. Il va annoncer à Pharaon que Dieu va délivrer son peuple. Figurez-vous qu'une fois que Moïse a dit ça, les choses ne se sont pas forcément arrangées parce que Pharaon a augmenté à partir de ce moment-là la charge qui pesait déjà très lourdement sur le peuple. Pour une raison très simple, il le dit d'ailleurs, il le dit, ce peuple travaille et fait la richesse de l'Égypte, et tu crois que je vais m'en séparer? Je crois qu'il y a là déjà tout de suite un enseignement. On peut avoir des belles apparences, on voit ça dans le monde, l'Égypte c'est aussi le monde, je vais y revenir. Mais quand les intérêts, notamment matériels, sont touchés, là, ça réagit. Et Pharaon, tout simplement, il réagit. Il dit, excusez-moi l'expression, mais il ne faut pas rigoler. Ce peuple est extrêmement habile, extrêmement intelligent, il a développé une économie florissante, pas question qu'il s'en aille. Je les retiens captifs. Nous voyons dans les passages que je n'ai pas lus, un autre petit commentaire. Toute oppression est organisée, il y a la puissance dominante et qui utilise des relais au sein des peuples dominés. C'est quelque chose que l'on voit en permanence, et c'était le cas ici. Le peuple d'Israël était opprimé sous l'emprise du peuple d'Égypte, enfin de Pharaon d'Égypte, qui avait des inspecteurs, mais les inspecteurs avaient comme relais au sein même du peuple hébreu des commissaires. Et ça, c'est une technique toujours employée par ceux qui dominent. Ils utilisent au sein de ceux qu'ils dominent des relais à qui il donne quelques avantages. Ainsi, d'ailleurs, on amène une discorde au sein du peuple. Mais l'homme est ainsi fait que, trouvant quelques avantages, il va accepter des situations un peu ambiguës, voire à trahir les siens. C'est une chose qui mérite d'être méditée. Donc Dieu confirme à Moïse, malgré tout ça, qu'il va délivrer son peuple. Nous lisons ensuite dans Exode 6, les versets 3 à 9. Je vous raconte un petit peu l'histoire, je crois que c'est important qu'on voit cela. Exode 6, les versets 3 à 9. même au verset 2, Dieu parla encore à Moïse et lui dit « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. » C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai au futur, pas au conditionnel, des travaux dont vous chargez les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Je vous délivrerai de leur servitude, je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Il est le Dieu, clairement, qui délivre. Mais le verset 9 nous dit... Il y a un verset, c'est pas grave, c'est un peu plus loin, qui nous dit, voilà ce que Moïse dit au peuple, avec assurance, de la part de Dieu, il n'y a aucun doute, il va les délivrer. Mais un verset nous dit, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Alors là, c'est quelque chose d'important dans les vies, qui fait obstacle à l'annonce du salut. C'est que quand on est pris dans toutes sortes de liens, on a tellement été abîmé qu'on n'arrive plus à entendre ces promesses-là. Et ça, c'est important. Mais Dieu va faire le nécessaire pour que de nouveau le peuple entende. Alors, avant d'aller à cela, ce temps des jugements que Dieu annonce, par lequel, au sein desquels il va délivrer son peuple, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur l'Égypte. L'Égypte est un système, à l'époque, qui utilise l'oppression, la terreur et l'asservissement. C'est clairement une économie qui est basée sur l'esclavage. L'esclavage des peuples qui ont été conquis. C'est un filet qui prend toutes les vies et tient dans l'angoisse. Là, l'homme... Son besoin naturel, finalement, de survivre, on pourrait dire son instinct de survie, le conduit à accepter toutes sortes de servitudes, et y compris dans les servitudes, on va chercher des consolations malgré tout, tellement c'est dur. On finit par se consoler dans l'esclavage avec même de maigres pitances, dans laquelle parfois il y a des oignons. Je dis cela parce qu'on verra quand le peuple sera sorti, il se souviendra et l'embellira le passé. Il dira, en Égypte, pays de l'esclavage, on avait des oignons. L'Égypte, c'est aussi un système qui utilise, j'en ai dit un mot, les uns contre les autres. Des commissaires choisis par les inspecteurs de Pharaon pour gérer le peuple et lui faire accepter l'oppression. Il y a toute une ambiguïté, on accorde quelques avantages aux uns, qui se croient du coup élus, qui croient à ces choses. En fait, le problème de l'oppression, c'est que, et de cette... Comment ce peuple s'est-il retrouvé dans cette situation d'esclavage? Parce qu'il avait été installé en Égypte par Dieu lui-même. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, on dirait aujourd'hui, une acculturation. Ils ont été contaminés progressivement par la culture de l'Égypte. Ils y ont trouvé des avantages, notamment économiques, c'est clair. Ils ont été finalement... assimilé. Il y a là une question importante, celle de la transmission. Dieu avait dit, lorsqu'il les a installés en Égypte, rappelez-vous tout ce que j'ai fait pour vos pères et transmettez-le de génération en génération. Je crois que c'est important qu'on parle de cela juste un instant. Transmettre. Transmettre. Ce que nous avons vu, les apôtres vont faire cela à notre égard. Ce que nous avons vu, ce que nous avons cru, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous croyiez. Et à un moment, il y a une rupture dans cette transmission. Alors, la pensée de l'Égypte a pénétré le peuple hébreu. Ils se sont trouvés assimilés. Et ils sont rentrés dans des mécanismes qui ont permis que l'oppresseur les opprime et les réduise en esclavage. Dieu a toujours, pendant tout ce temps, ça a duré 430 ans, vous notez d'ailleurs que ça avait été annoncé à Abraham, « Je ferai de toi un peuple immense, etc. » qui habitera un pays qui n'est pas le sien et dans lequel il sera opprimé pendant 430 ans. Dieu est-il sadique ? Non. Ça fait partie aussi de les leçons que l'on doit recevoir. Si nous ne transmettons pas, si nous ne transmettons pas ce que nous avons reçu, si nous ne faisons pas passer à nos enfants et aux générations qui suivent ce que Dieu a fait pour nous, comment le sauront-ils ? Comment croiront-ils ? Si personne ne témoigne, si personne ne prêche. Nous avons un devoir de transmettre, les parents évidemment aux enfants, mais tous les croyants ont le devoir de transmettre, d'attester ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont cru. Et malgré toutes les oppositions qui viennent, qui sont là, subtiles et qui cherchent à nous endormir et à nous assimiler, Et je prie que l'ennemi ne réussisse pas cette manœuvre au sein même du peuple de Dieu. Ne nous laissons pas assimiler. Des fois, en appuyant sur ce verset, user du monde comme n'en usant pas, nous finissons par en user comme en usant. Attention. Attention à notre âme qui peut nous embarquer et dire il faut bien s'adapter. Et à un moment, c'est nous qui sommes adaptés. Dieu voit la situation de son peuple et il a promis et il va l'accomplir. Et comment va-t-il l'accomplir ? Il va accomplir la libération de son peuple par un temps de jugement sur les nations impies, sur le monde impie qui s'est révolté contre lui. Et c'est ainsi qu'il y aura les 10 plaies en Égypte. Parce que vous l'avez vu, Pharaon ne s'est pas laissé faire tout de suite. Et Dieu va envoyer des jugements avec une double destination. Pour que son peuple opprimé voie la main de son Dieu, se rappelle qu'il a un Dieu puissant. Qu'il se rappelle qu'il a un Dieu puissant plus que les magiciens de l'Égypte qui ont fini par prendre le pas. Il va y avoir 10 plaies. Et puis, jugement à l'égard de cette nation, de cet empire impie, idolâtre et révolté contre Dieu, dans la possibilité aussi, mais ce ne sera pas le cas, qu'il y ait repentance et que Pharaon revienne de ses mauvaises voies. Il va y avoir un tas de fausses repentances de la part de Pharaon, mais il y aura une dernière plaie, le jugement de Dieu. Il est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et je crois que cette 10e plaie, qui est la mort des fils aînés dans toute l'Égypte, manifeste ce jugement de Dieu. Au sein même de ces jugements, le salut va être offert. Et là, nous arrivons sur la Pâque. La Pâque, c'est passer outre. C'est-à-dire qu'il y a un jugement de Dieu qui tombe, il faut bien comprendre ça, sur les hommes révoltés, impies, qui ignorent Dieu, qui veulent vivre pour eux, avec leur richesse, etc. Il y a, après la patience de Dieu, un temps de jugement. Et c'est au sein de ce temps de jugement j'allais dire qu'un dispositif va être mis en place par Dieu pour qu'ils échappent à ce jugement. Le salut est offert, nous allons lire cela à travers un dispositif. Ça paraît un peu technique ce que je dis, mais je voudrais qu'on comprenne les choses. Ce n'est pas nous qui avons choisi le moyen de nous sauver. C'est Dieu dans sa souveraineté. Alors nous allons lire dans Exode 12, les versets 1 à 14, et ensuite 21 à 28. Exode 12, versets 1 à 14. Pharaon a résisté à tous les jugements qui sont intervenus. Et là, Moïse a annoncé, Dieu a un jugement, les fils premiers-nés dans tout le pays d'Égypte mourront, aussi bien des hommes que des animaux. Exode 12, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez par cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et les herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. À nouveau la transmission sur laquelle il est insisté. Nous lisons encore du verset 21 au 28. Qui redit un peu de ces choses. « Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez prendre du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau des deux poteaux de la porte avec du sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon la promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus, qui a passé outre. » Les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosternant, et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. En un mot, ils obéirent. Le salut, voilà donc ce que Dieu, dans sa souveraineté, a décidé. La Pâque, le passé août, vient donc ainsi au milieu des jugements qui tombent sur une humanité orgueilleuse, révoltée et idolâtre. Une porte étroite est offerte par Dieu sur la base de sa souveraine justice et équité. Le salut et la grâce associés et donc la décision de Dieu souverain associant le jugement juste d'une humanité déchue et révoltée et la porte étroite et simple en même temps offerte. Porte étroite et simple, car qu'y a-t-il de plus simple que de passer sous une porte ? Venir se placer à l'abri d'une maison où, avec d'autres, notez-le bien, dans la même situation, nous entrons. Cette maison est marquée par le sang d'un sacrifice d'un agneau sans défaut et sans tache, qui n'a rien fait de mal, mais dont le sang, la vie a été sacrifiée. Pour entrer, il faut franchir une porte. Notez qu'aucune autre condition n'est posée pour franchir cette porte. Le moyen de salut, il est offert selon la souveraineté de Dieu, comme un moyen d'échapper au jugement, selon la prescription suivante, Dieu le juste juge verra le sang de l'agneau immolé et décide alors de passer outre. C'est la Pâque, au bénéfice de ceux dont le seul mérite est d'avoir cru et d'avoir obéi en conséquence à ce que Dieu demandait. Peut-être ça vous paraît simpliste. C'est bon pour des simples, ça tombe bien. Le salut, il est offert à tout homme qui accepte ce que Dieu a décidé. Il y a donc élection et non sélection. Le moyen du salut est offert à tous, il n'y en a pas d'autre. Notre part, lorsqu'il nous est présenté, et de l'accepter ou de le refuser. Mais ne dis pas dans ton cœur que ce commandement est au-dessus de tes forces. Il est là, tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu le pratiques. Qu'est-ce qui fait donc que si peu le saisissent ? Nous avons plein d'exemples dans la Bible. C'est Dieu qui est Dieu. Et nous sommes des créatures. Et passer dans cette porte étroite, mais dans laquelle on peut passer, marquée par le sang, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on reconnaît qu'on en a besoin. Ça veut dire qu'on reconnaît que on est pécheur et que ce sang de l'agneau immolé, il est pour nous aussi. Notez qu'il s'agit d'entrer dans une maison où on n'est pas seul. Nous associons à ceux dont la condition était la même. Nous avons saisi l'espérance qui nous était offerte. C'est tout. C'est tout. Ça vous déçoit peut-être. Moi, ça ne me déçoit pas. Ça m'encourage. Et peut-être ce matin, il y a ici des hommes, des femmes qui ont connu, ça a été rappelé, je crois que c'est très fort, cet esclavage. Cet esclavage du péché, ces liens de vouloir paraître, d'être conforme à ceci, d'être conforme à cela. D'espérer en ce monde, d'espérer améliorer notre condition pour satisfaire, que sais-je, des parents qui eux-mêmes étaient déçus de ce qu'ils avaient fait et qui mettaient dans leur enfant tout un espoir. Peut-être faire mieux qu'eux. Ne se rendant pas compte qu'ainsi, d'ailleurs, on se met dans une révolte, les jugeant ceux par qui la vie nous a été transmise. Je ne sais, il y a toutes sortes d'esclavages. Il y a toutes sortes de liens qui nous tiennent. Alors, il y a ce moyen du salut, tout simple. Passer, entrer dans ce lieu après être passé sous le sang de l'agneau. Alors, bien sûr, l'agneau sans défaut, le sang répandu, la porte, nous conduisent évidemment à l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Pas celui simplement qui l'efface, celui qui ôte. C'est Jésus-Christ. Le Nouveau Testament va nous rappeler tout ça. Dans la lettre aux Hébreux, après avoir parlé par les prophètes, Dieu dans l'éternel temps nous a parlé par le Fils. Il a fait lui-même la purification des péchés. Par une seule offrande, il a amené à la perfection ceux qui sont sanctifiés. Christ s'est offert une seule fois pour le péché de plusieurs. Maintenant, à la fin des siècles, nous dit l'Écriture également, il s'est offert une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Voilà donc un des fondements de la foi chrétienne que Paul, qui a persécuté l'Église de Jésus-Christ, a magnifiquement exposé. Et je voudrais qu'on lise dans Romains 3, 21. Ce passage. Paul, au début de la lettre aux Romains, nous démontre, et c'est ça que nous avons du mal à admettre, et c'est ça que l'esprit de l'Égypte actuelle nous rend tellement floutés, si j'ose dire, c'est que l'homme est pécheur, l'homme est déchu. Pas un n'est juste. Pour beaucoup ici, ça va paraître là aussi simpliste. Alors on sait que c'est écrit dans la Bible, mais frères et sœurs, vraiment, c'est une grosse difficulté au sein même du peuple chrétien, parce que différents courants de pensée viennent laisser entendre que peut-être il y a quand même du bon dans l'homme qu'on va aller chercher, une parcelle qu'on va aller chercher qui n'aurait pas besoin d'être achetée. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous avons besoin de passer sous le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre salut, il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Ce sang éternel, par ce sacrifice éternel, nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Dès que d'autres pensées viennent s'instiller dans nos cœurs, nous nous éloignons. Nous nous éloignons. Et nous ne sommes plus tout à fait au bénéfice de la grâce. Peut-être je m'explique mal, mais je sens ces choses tellement fortes. Romains 3, 21. Je vais relire un petit peu avant dans Romains 3. Verset 9, il faut que vraiment qu'on comprenne bien ça. « Quoi donc, dit Paul, sommes-nous plus excellents ?» Il parlait des Juifs qui avaient la loi, qui avaient eu les prophètes, etc. « Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Je m'arrête là. Verset 21, « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi, par la confiance en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, il n'y a point de sélection, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par la moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, l'agneau immolé, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est, frères et sœurs, exclu, frères et sœurs, de se glorifier de quelconque œuvre que nous aurions pu faire pour contribuer un tant soit peu à notre salut. Nous étions perdus par le seul sang de Jésus-Christ. Nous sommes rachetés de tout péché, de toute iniquité. Il est l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché. Il ôte le péché parce que le péché était là. Il ôte le péché. Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Par quelle loi ? Par la loi des œuvres ? Non ! Mais par la loi de la foi. Retenez ce verset. Car nous pensons, c'est pas simplement une idée, nous pensons Nous confessons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Nous confessons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Nous sommes une église protestante, évangélique. Nous sommes au bénéfice de nos pères qui ont transmis. Nous sommes au bénéfice des saints apôtres et prophètes qui nous ont transmis la parole, qui ont permis, après des temps où l'Église, le peuple de Dieu s'est détourné sous l'influence de conducteurs, il est vrai, qui ont permis, il y a peut-être 5 siècles, à des hommes, retrouvant ce témoignage précieux et transmis, de retrouver ce verset. Nous confessons que nous sommes justifiés par la foi sans les œuvres de la loi. Il y a eu transmission. Transmission de ces acquis. Et ça s'est poursuivi. L'Église de Jésus-Christ, c'est son Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, parce qu'elle est fondée sur le roc, Jésus-Christ, et sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Je fais ce geste, car la pierre angulaire donne toutes les directions, donne l'orientation de la maison, donne son élévation, son aplomb, et c'est là ce qui nous a été transmis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous pouvons revenir à ces sources. Notre salut n'est pas une bonne action de Dieu qui dirait « Tiens, je vais les prendre ». Il nous arrache à un jugement que nous méritions. Comprenons cela. À main forte et à bras étendus, le salut, c'est un arrachement du royaume des ténèbres qui nous tenait et qui nous transporte dans le royaume de son Fils bien-aimé. Quelques points très pratiques. D'abord, je voulais dire, pour résumer tout cela, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, qui est la porte. Et quand nous entrons en lui. Nous mangeons son corps. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Nous sommes entrés par la porte. Il est la porte. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, il n'y en a point d'autre. Un dernier point, nous vivons dans un monde où Dieu est violemment rejeté et toute transmission éradiquée. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde où Dieu est violemment rejeté et toute transmission éradiquée. Car qui est donc chargé de la transmission, si ce n'est les parents? La famille est violemment combattue pour qu'il n'y ait pas de transmission. Pour que des enfants, des jeunes, se retrouvent devant la puissance de l'Antéchrist, avec inondé d'informations. Le voleur, c'est le voleur du temps. Le voleur du temps qui nous met, qui veut nous mettre. Un rythme. Dieu a fait les jours, les mois, les années. Dieu a fait les jours, les mois, les années. Frères et sœurs, l'Égypte, aujourd'hui, veut nous voler le temps. Et Dieu est celui qui est au-dessus. Le temps est volé, il est pillé. Frères et sœurs, il est temps de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être renouvelés dans notre intelligence, afin que nous comprenions la volonté de Dieu, celle qui est bonne, agréable et parfaite. Oui, amen. Amen, oui. Mes frères et sœurs, le vivons-nous. J'hésite à dire ça, parce que par moments, je voudrais dire à certains, hey, « Eh, oh, secouez-vous un peu. » voudrais vous dire aujourd'hui, je partageais cette semaine, hier au conseil d'église, aux différents responsables, dimanche après dimanche, frères et sœurs, il arrive au milieu de nous, des hommes et des femmes qui vivent des angoisses d'une profondeur qu'on ne peut pas soupçonner et qu'ont-ils besoin de trouver des témoins authentiques. Je vous renouvelle que ce n'est pas en adoptant toutes sortes de stratégies, mais en étant des témoins authentiques, qui connaissons notre identité de rachetés de l'Éternel, que ceux qui viennent avec les liens de l'esclavage, du péché et de ce monde seront touchés. La parole nous dit que c'est le témoin authentique qui libère les âmes. C'est le témoin authentique qui libère les âmes. Quand un homme, une femme, est consacré à Dieu, comme nous l'avons chanté, les hommes du monde et les femmes du monde ne s'y trompent pas. Le témoin, c'est le témoin authentique qui libère les âmes. Je terminerai par deux versets dans que nous avons lus. Oui, nous sommes libérés. La Pâque, le jugement de Dieu. Dieu est passé outre son jugement parce qu'il a vu. Nous nous étions placés sous le sang de son Fils. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais il nous a dit quelque chose. Lorsque vous aurez été libérés, je vous libère et vous me servirez. Je vous libère et vous me servirez. Je vous libère, alors vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Il est notre sauveur, il est notre Seigneur. Il ne peut pas être que notre sauveur. Je vous rappelle Exode 3, verset 12, « Je serai avec toi et ceci sera prouvé par le signe que c'est moi qui t'envoie, quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Et enfin, Jésus lui-même reprend cette pensée quand il invite « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Du repos pour être un coup de ne rien faire, non. Vous aurez un repos auprès de moi. Et là, vous prendrez mon joug, le joug du Seigneur qu'il va poser sur nous. Et vous recevrez mes instructions. Pas les instructions du dur maître qui fouette et qui manipule. Car je suis doux, moi, Jésus. Je suis l'agneau immolé. Je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Et vous pourrez travailler pour mon royaume. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Et vous pourrez travailler pour mon royaume. Où est le sujet de se glorifier? Il y en a un, oui. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous pouvons nous glorifier. À jamais, il sera l'agneau sur le trône. Parce que l'agneau immolé, c'est le même qui est sur le trône. Et ça, c'est quelque chose qui me touche. Sur le trône, à la droite du Père, il a toujours ses mains percées, son côté, sa vie offerte pour nous, pour que nous n'oublions pas et que nous transmettions à ceux qui nous suivent. Nous prions maintenant. Seigneur notre Dieu, merci que dans ta grâce souveraine, et dans ta justice, tu as pourvu à notre salut en passant outre le jugement que nous méritions. Merci, Seigneur, de ce que tu es le ressuscité. Tu as été mort, mais maintenant tu es le vivant au siècle des siècles. Tu es le premier des ressuscités. Et tu nous fais cette promesse que nous goûterons ce bonheur d'être avec toi pour l'éternité et que nous ressusciterons celui qui croit en moi. Je le ressusciterai au dernier jour. Seigneur, merci de ce que tu as déposé dans nos cœurs de toutes ces choses que tu nous as données pour certaines, Seigneur. Merci pour la foi que tu as suscitée dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je te loue et je te bénis, Père. Amen.